Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس ساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour chers amis auditeurs, ravis de vous retrouver en ce mercredi 9 juin 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal suivi d'un commentaire politique. La Corée du Nord fustige Israël, gardien d'un abattoir d'enfants, je cite. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, la guerre n'est pas une solution aux crises au Yémen et en Afghanistan. Déclaration du chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif. Le Hamas met en garde le régime de Tel Aviv sur l'autorisation d'une marche controversée à Al-Quds. Et puis le projet de loi US pour contrer la Chine, Pékin accuse Washington de paranoïa. Le ministre iranien des Affaires étrangères a dit prêt Téhéran à faciliter les pourparlers de paix au Yémen et en Afghanistan pour promouvoir la paix et la stabilité régionale. Mohammad Javad Zarif dit qu'il a fait ce commentaire lors de réunions séparées à Téhéran avec les envoyés spéciaux de l'ONU pour le Yémen et l'Afghanistan. Le haut diplomate iranien a qualifié de fructueux ses entretiens avec Martin Griffiths sur le Yémen et avec Jean Arnaud sur l'Afghanistan. Le chef de la diplomatie iranien a insisté à cette occasion que le processus de paix doive appartenir à tous les Yéménites et Afghans sans une imposition depuis l'extérieur. L'ONU tente d'amener les belligérants au Yémen à la table des négociations pour mettre fin à un conflit déclenché par les Saoudiens en 2015. Quant à l'Afghanistan, le gouvernement y est en pourparlers avec le groupe taliban pour conclure un accord de paix après des années de violences sanglantes. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que des centaines de sanctions contre l'Iran pourraient rester en place, même dans le cas d'une éventuelle relance de l'accord nucléaire de 2015. Anthony Blinken s'adressait à une réunion du comité sénatorial sur les récents pourparlers à Vienne sur la relance de l'accord nucléaire iranien. Le chef de la diplomatie américaine a déclaré que les États-Unis ne savent pas si l'Iran est prêt à faire le nécessaire pour se mettre en conformité. Les États-Unis se sont retirés de l'accord international en 2018 et ont rétabli les sanctions contre l'Iran. En réponse, l'Iran a commencé à revenir progressivement sur ses engagements nucléaires liés à l'accord de 2015. Téhéran et les autres parties sont désormais engagés dans des pourparlers à Vienne pour relancer l'accord. Téhéran a de nouveau déclaré qu'il ne reviendrait entièrement à la conformité qu'une fois que les États-Unis auront levé toutes les sanctions de manière vérifiable. Les patients iraniens OB portent plainte contre une société suédoise. Irans OB Home, une ONG soutenant les personnes souffrant d'une affection cutanée rare, connue sous le nom d'épidermolyse bullose et plusieurs juristes ont déposé une plainte contre cette société suédoise, une société de dispositifs médicaux dont le siège est à Göteborg, pour son refus de vendre des produits médicaux à Téhéran sous prétexte aux sanctions américaines. La plainte a été déposée auprès du point de contact national suédois pour les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales dans le but de tenir les auteurs de violations des droits humains responsables de leurs crimes. Les États-Unis ont rétabli leurs sanctions contre l'Iran en mai 2018, après avoir quitté un accord nucléaire approuvé par les Nations Unies avec l'Iran. Depuis lors, cette société suédoise a cessé de vendre des produits pharmaceutiques et du matériel médical, y compris des pansements spéciaux pour ses patients atteints d'EB. Cette décision a privé les patients atteints d'EB, également connus sous le nom de patients papillons, parce que leur peau est aussi fragile que les ailes d'un papillon, d'articles médicaux essentiels. On a tué beaucoup, en particulier des enfants, et a infligé de graves blessures physiques telles que l'amputation à certains de patients. La Chine a fermement condamné les États-Unis pour avoir approuvé un projet de loi visant à contrer ce que Washington considère comme une menace technologique chinoise. Pékin a accusé Washington d'exagérer une soi-disant menace chinoise. Ce projet de loi révèle l'égocentrisme paranoïaque des États-Unis, a fustigé mercredi la Commission des affaires étrangères du Parlement chinois, citée par l'agence de presse Chine Nouvelle. Le Parlement chinois a déclaré que le projet de loi diffame les politiques intérieures et étrangères de la Chine et constitue une ingérence dans les affaires intérieures de Pékin. Mardi, le Sénat américain a approuvé un vaste projet de loi sur la politique industrielle visant à renforcer la capacité du pays à rivaliser avec la technologie chinoise. Le projet de loi autoriserait environ 190 milliards de dollars pour des dispositions visant à renforcer la technologie et la recherche américaine. Le texte, présenté comme historique, a été approuvé par 68 voix contre 32 au Sénat et doit désormais être adopté définitivement à une date qui n'a pas encore été fixée par la Chambre des représentants avant d'être promulguée par Joe Biden. Les autorités israéliennes donnent leur feu vert à une marche controversée d'extrême droite en faveur des colons à travers la ville sainte de Rose occupée qui doit se tenir mardi prochain 15 juin. Le rassemblement qui se nomme « Marche des drapeaux » était initialement prévu pour ce jeudi, mais a été annulé. Le mouvement de résistance palestinien, le Hamas, avait averti que la soi-disant marche de colons avec des drapeaux et des pancartes provocateurs pourrait déclencher un nouveau conflit dans la région. La branche militaire du Hamas a organisé lundi un défilé militaire dans la bande de Gaza, manière d'envoyer un message d'avertissement à Tel Aviv. Selon la presse israélienne, Benjamin Netanyahou était à la manœuvre, soutenu par plusieurs membres de son parti, pour maintenir la manifestation malgré la réprobation des chefs des services de sécurité. Un prisonnier politique chiite bahreïni est décédé du Covid-19 après s'être vu refuser des soins médicaux. Hossein Barakat était dans le coma en raison d'une grave infection pulmonaire et d'un manque d'oxygène. Son état de santé s'est détérioré lorsque le ministère de l'Intérieur bahreïni et les responsables de la prison ont refusé de le libérer temporairement. Les autorités bahreïnies n'avaient pas mis la famille de Barakat au courant de son état de santé. Quelques 220 prisonniers politiques dans les prisons bahreïnies ont été touchés par le mortel Covid-19 depuis le début de la pandémie. Les militants des droits de l'homme disent que ces détenus font l'objet d'une négligence médicale. Ce comportement va dans le cadre d'une discrimination généralisée systématique visant la majorité chiite du pays par le régime des Al-Khalifa au pouvoir à Manama. Les autorités bafouent le droit des détenus à la santé dans un contexte d'augmentation des cas de Covid-19 à la prison. Enfin, le Tribunal des Nations Unies pour les crimes de guerre confirme une condamnation pour génocide et une peine à perpétuité contre l'ancien commandant militaire serbe de Bosnie, Ratko Mladic, pour son rôle dans le massacre de 1995 en Bosnie. La Cour pénale internationale a confirmé la condamnation à perpétuité de l'ancien dirigeant serbe, surnommé le boucher de Bosnie. En 2017, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie avait condamné Mladic à la prison à vie et la CPI a confirmé en appel ce mardi la condamnation à la réclusion à perpétuité de l'un des principaux dirigeants jugés par la justice internationale pour les crimes commis pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Les forces serbes, dirigées par Mladic, sont entrées dans la ville de Srebrenica le 11 juillet 1995 après avoir été déclarées zone de sécurité par les Nations Unies. En quelques jours, les forces serbes ont perpétré un massacre faisant plus de 8 000 morts bosniaques, âgés de 7 à 70 ans. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. La Corée du Nord fustige Israël, gardien d'un abattoir d'enfants. Israël a transformé Gaza en un abattoir humain, notamment un abattoir d'enfants, a annoncé le ministère nord-coréen des Affaires étrangères dans un communiqué en réaction aux toutes récentes agressions d'Israël contre les habitants de Gaza. Selon Newsweek, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a fustigé les crimes commis par le régime israélien en massacrant les enfants palestiniens. Le massacre des enfants par Israël constitue un crime abominable, un problème sérieux pour l'avenir de l'humanité et un crime contre l'humanité. Nous n'exagérons pas en disant qu'Israël a fait de la bande de Gaza un grand abattoir humain et un lieu pour massacrer les enfants. Dès que les bombardements ont fini, Netanyahou et d'autres responsables israéliens ont tout fait pour dissimuler leurs crimes commis contre les enfants, a dit le texte. Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a souligné que les atrocités commises par les Israéliens avaient été condamnées par la communauté mondiale. Les médias internationaux dénoncent les atrocités d'Israël et ce qu'il a fait avec les enfants. Ils pointent du doigt Israël en tant que responsable de l'expulsion des Palestiniens, du développement illégal des colonies et de la répression des rituels pacifiques des Palestiniens, indique le communiqué. Le communiqué de la Corée du Nord a souligné que les horreurs sionistes à Rosetz occupée et dans la bande de Gaza assiégée constituent des crimes de guerre, un crime contre l'humanité et une violation flagrante du droit international. Le conflit entre les deux parties a éclaté le 10 mai et les attaques mutuelles à la roquette entre Israël et la résistance palestinienne se sont poursuivies pendant 11 jours. Selon le communiqué de presse de l'armée israélienne, depuis le début du conflit dans la bande de Gaza, 1500 cibles ont été touchées. Selon le ministère de la Santé de l'État de Palestine, lors de la confrontation avec Israël dans la bande de Gaza, plus de 220 personnes ont été tuées et plus de 1500 ont été blessées. Dans le même temps, si les Israéliens prétendent que les frappes ont été menées exclusivement sur des cibles du Hamas, alors à Gaza, ils déclarent que tous les morts sont des civils. Depuis le début des années 1960, la Corée du Nord a fermement soutenu la création d'un État palestinien. De la formation des militants palestiniens dans les années 1970 à l'aide au Hezbollah à construire des tunnels souterrains vers les territoires occupés par Israël au milieu des années 2000, la Corée du Nord a maintenu une présence active au Moyen-Orient. En 1970, Kim Sung a fourni des armes et un soutien financier au Front populaire de libération de la Palestine. En 2016, le quotidien israélien Ma'ariv a rapporté que la résistance palestinienne détenait des armes et des équipements militaires fabriqués par la Corée du Nord.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la visite d'une délégation française néerlandaise dans une zone non contrôlée par Damas, ce qui a mis évidemment très en colère le gouvernement de Damas qui a tout de suite condamné cette visite car c'est une entrée illégale dans une zone contrôlée par les forces démocratiques et bien sûr de la Syrie. Alors pourquoi cette délégation s'est rendue sur place ? Pour beaucoup d'experts, il s'agit donc d'essayer de rapatrier des centaines de mineurs et d'adultes qui se trouvent dans des camps dans cette zone contrôlée donc par les forces démocratique de la Syrie. Mais depuis l'effondrement de Daesh, c'est-à-dire en 2019, beaucoup de pays européens sont restés extrêmement réticents face à le rapatriement justement de ces concitoyens vers des pays d'origine. Voilà. Alors avant de commencer le débat d'aujourd'hui, je vous invite de regarder un reportage préparé par mes collègues. On sera avec vous juste après. Vous restez avec nous, je vous prie.
Les autorités syriennes ont condamné une visite illégale de délégations venues de France et des Pays-Bas dans les territoires qui échappent toujours au contrôle de Damas. La Syrie a condamné l'entrée illégale de délégations françaises et néerlandaises sur les territoires contrôlés par les unités des forces démocratiques syriennes dans le nord-est du pays, rapporte l'agence de presse Sana. Samedi 5 juin, les médias kurdes ont annoncé l'arrivée dans la ville de Ramishli d'une délégation néerlandaise à qui l'administration a remis 4 proches de combattants de Daesh. Une délégation française se serait également rendue dans des territoires contrôlés par les FDS fin mai. Selon un porte-parole ministériel, la délégation de la Fondation Daniel Mitterrand et de la mairie de Paris s'est rendue illégalement dans la ville de Ramishli, ce qui constitue une autre implication directe de la France dans l'agression contre la Syrie. Les Pays-Bas ont confirmé le rapatriement d'une ressortissante néerlandaise soupçonnée d'infraction terroriste avec ses 2 enfants mineurs, ainsi qu'une victime d'enlèvement international d'enfants.
Alors voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos 2 chers invités, en commençant par Aïssar Midani, analyste franco-syrienne depuis Paris. Madame Midani, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous et bonjour à toute l'équipe et merci de votre invitation.
Tout le plaisir est pour nous. Madame Midani, merci d'accepter notre invitation. Un grand merci à monsieur Philippe Hugon, reporter de guerre et analyste des questions internationales depuis Paris également. Monsieur Hugon, bonjour.
Oui, bonjour à toute l'équipe, à vos auditeurs et bien sûr à Aïssa Midani.
Bien, ma bonjour, première question. Oui, merci d'être avec nous. Alors, ma première question va s'adresser à Aïssa Midani depuis Paris. Alors, Madame Midani, cette zone qui n'est pas contrôlée par Damas est témoin ces jours-ci de la visite illégale d'une délégation franco-syrienne, française et néerlandaise dans cette partie du monde, ce qui a mis évidemment très en colère Damas. Est-ce que Damas a raison d'être en colère?
Mais bien sûr qu'elle a raison d'être en colère. D'abord, c'est une violation de la souveraineté de la Syrie. C'est aussi, ça vient après le fait aussi qu'à plusieurs reprises, la Syrie a demandé à tous les pays qui ont soutenu des terroristes et qui ont envoyé des terroristes chez elle de rentrer en contact avec le gouvernement syrien pour pouvoir reprendre les prisonniers, d'une part, et d'autre part, pour pouvoir envisager en fait des procès locaux et puis leur procès, puisque ce sont des terroristes dans leur pays d'origine, puisqu'ils ont commis aussi pas mal de crimes, et des crimes contre des personnes syriennes, des crimes contre des biens de l'État syrien et des crimes contre des personnes autres et des biens de l'administration et des biens privés. Donc, il est important, en fait, de se mettre d'accord sur les sanctions qu'on peut apporter à ces personnes. Or là, l'introduction des... déjà l'introduction d'une délégation française sur territoire syrien sans jamais prendre contact avec l'État syrien est une violation. Je voudrais quand même rappeler aussi que la France, comme beaucoup de pays européens aussi, ont soutenu, pas seulement ont soutenu les terroristes, ils ont été un peu la tête de pont d'agression contre la Syrie depuis 10 ans, 11 ans maintenant. Et il n'y a jamais. Et en plus, ils étaient les premiers à détruire aussi beaucoup l'infrastructure syrienne et à détruire aussi l'État syrien. Donc, c'est effectivement une violation supplémentaire, je dirais.
D'accord. Et Philippe Hugon, vous êtes reporter de guerre et analyste des questions internationales depuis Paris. Monsieur Hugon, nous avons entendu les propos de Madame Midani à ce propos. Alors, le gouvernement de Damas a vu cette visite française et néerlandaise d'un très mauvais œil, car le gouvernement syrien a une très mauvaise expérience, surtout à l'encontre de la France. Qu'en pensez-vous?
Oui, ben, il est clair qu'il est absolument scandaleux qu'une délégation française puisse venir sur le territoire syrien. Je rappelle que la Syrie est dirigée par Bachar al-Assad, qui est un président élu, qui s'est battu contre le terrorisme pendant plusieurs années. Cette guerre a fait des milliers de victimes, et je trouve absolument ordurier de la part de la France d'envoyer des diplomates en territoire syrien pour essayer de récupérer des prisonniers. D'abord, ce ne sont pas des prisonniers, ce ne sont pas des prisonniers de guerre, ce sont des assassins, des criminels, et ces gens-là ne devraient pas être rapatriés dans leur pays. Ces gens-là devraient être fusillés par l'armée syrienne pour haute trahison et pour crime contre l'humanité. Donc il n'y a rien à négocier avec l'État syrien à ce niveau. Il faut que les puissances occidentales comprennent leur trahison. Quant aux politiques qui ont cautionné cette politique, ces gens-là devraient être traduits en justice pour haute trahison et devraient être condamnés à de la prison ferme. Alors je trouve absolument impensable qu'un ministre comme Le Drian puisse, cette sous-merde du gouvernement français, puisse venir en territoire syrien, c'est-à-dire occuper une partie du territoire syrien sans avoir de visa et d'autorisation du gouvernement, venir négocier avec une soi-disant opposition syrienne, car il n'y a pas d'opposition syrienne. L'opposition syrienne, c'est des groupes terroristes qui sont venus faire la guerre en Syrie et qui ont assassiné des milliers de personnes.
Monsieur Hugon, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais on a une forte raison de penser que FDS, Force démocratique de la Syrie, coopère avec cette délégation pour rapatrier des prisonniers français ou européens vers leur pays d'origine. Qu'en pensez-vous?
Ah, mais c'est tout à fait le cas, hein. Et puis, là, je vous reprends une nouvelle fois, ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des criminels, des assassins. Alors qu'une délégation étrangère vienne occuper illégalement une partie du territoire français, une partie du territoire syrien, pardon, et ce sont des diplomates français cautionnés par le gouvernement français. Ça veut dire que la France, qui a soutenu pendant des années le terrorisme, qui a armé Daesh, qui a formé Daesh, et aujourd'hui se permet d'envoyer les diplomates pour négocier la libération de criminels. Mais on est en plein délire diplomatique, là. C'est complètement fou qu'on puisse assister à une horreur pareille et de voir une chose pareille et que ce soit toléré par la communauté internationale. Il est scandaleux que l'ONU, cette organisation de terrorisme international, puisse cautionner tout ça et ne le condamne pas. Et c'est absolument scandaleux, je le dis bien, de voir une telle situation aujourd'hui.
Aïssa Hamidani, donc, est-ce que vous partagez la colère de M. Philippe Hugon quand il parle des criminels qui se trouvent dans des camps contrôlés par FTS, mais il y a tout de même des mineurs parmi ces gens-là qui sont dans des camps, pour certains des orphelins et pour d'autres ils ont des parents avec eux. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Hugon?
Je suis entièrement d'accord avec M. Hugon sur le fait que c'est une agression caractérisée d'un côté et que c'est d'un autre côté, c'est un mépris de l'État syrien légitime qui existe, qui est là et qui de plus à plusieurs reprises a appelé tous les pays qui ont participé à cette guerre contre la Syrie à reprendre leurs agents mais à négocier, se rapprocher de l'État syrien pour en discuter. Ça, c'est un premier point. Et ils n'ont jamais voulu traiter. Je voudrais quand même dire qu'il y a eu plusieurs messages du côté de la France pour essayer de discuter sous la table avec l'État syrien sur les questions justement des prisonniers, etc. Mais jamais ils n'ont voulu qu'il y ait un bien sûr l'État syrien a été intransigeant sur le fait si on discute d'abord sur la par-dessus la table et on discute sur tous les plans, on discute politiquement d'abord et puis cette question de sécurité, etc., elle fait partie des questions politiques. Donc, mais cet État français a l'arrogance, en fait, non seulement de ne pas reconnaître, de ne pas considérer que l'État syrien est un État légitime, mais il va, dans cette attitude, donner une certaine reconnaissance ou légitimité à FDS, qui ne sont qu'une bande de mercenaires, effectivement, qui sont animés par à la fois les États-Unis, la France, etc. Et je voudrais dire quand même, j'ajoute au fait que je dis la France a été la tête de pont dans l'agression, les bombardements français ont mis la ville de Qamishli, la ville de Raqqa à terre complètement. Les bombardements français ont tué des milliers de personnes, des civils en Syrie. Le crime de guerre, il est plutôt à mettre sur le dos de l'État français qui agresse la Syrie depuis 11 ans maintenant et qui continue donc de ce fait maintenant, qui acquiesce et qui continue et qui aggrave son cas en envoyant une délégation soi-disant à FDS pour discuter avec DS. Et à la période même, ou même dans les moments même, où le président syrien vient d'être élu avec un score qui fait pâlir de jalousie, je dirais, l'ensemble de ces pays, des chefs de ces pays qui se disent démocratiques et qui ne sont élus qu'à 14 ou 15% de leur pays.
Aïssa Hamidani, est-ce que c'est le hasard que la France a choisi une délégation néerlandaise à côté de la sienne pour donc visiter une partie du pays, pour un peu calmer l'opinion publique mondiale? Elle ne s'est pas rendue toute seule dans cette zone, mais avec une délégation néerlandaise. Aïssa Hamidani?
Bah, Bah, écoutez, je pense que de toute façon, c'est l'ensemble de l'Union européenne qui était impliquée dans la guerre contre la Syrie, mais c'est vrai que les têtes de pont, c'était plutôt la France et l'Allemagne, et la Hollande aussi, mais dans une moindre mesure, mais peut-être... je ne sais pas, mais pour moi, c'est de la provocation pure et simple, des deux États, d'ailleurs, qui ont toujours été contre la Syrie, qui ont participé à la destruction de la Syrie, qui ont tué des milliers de personnes, et voire des dizaines de milliers de personnes, provoqué aussi des milliers de personnes handicapées, et ont vraiment détruit, et continuent à tenir un embargo étouffant contre la Syrie pour éviter que la Syrie ne redémarre économiquement, et qui continuent d'ailleurs dans leur crime contre l'humanité à affamer le peuple syrien, à le priver de ses ressources et à le priver d'une vie normale au niveau de l'ensemble des autres pays. Donc pour moi, ils sont tous les deux, ils sont similaires dans l'agression et similaires dans la provocation. Et la Syrie a tout à fait raison, non seulement de condamner, mais d'appeler la communauté internationale à condamner ce type d'acte, hein, et à demander qu'il y ait des sanctions aussi contre ces pays qui n'arrêtent pas d'agresser et de violer la charte de l'ONU, de violer la souveraineté des autres pays, alors qu'ils n'arrêtent pas de prétendre défendre les droits de l'homme et les droits humains, etc. Et là, ils sont en train, ces caractéristiques, en fait, non seulement dans la violation aussi de la charte de l'ONU, puisqu'ils vont discuter avec une faction qui n'a absolument aucune existence de politique ni légitime, ni rien du tout, et elle n'a absolument pas le droit de discuter de quoi que ce soit, puisque ce sont des individus qui portent des armes contre leur propre pays, sachant qu'il y a à leur tête aussi des gens qui viennent de Wadi Qumbil en Turquie.
Tout à fait. Philippe Hugon, est-ce que vous êtes d'accord avec Aïssa Armidani quand elle parle d'un acte de provocation de la part de la France et des Pays-Bas? Car depuis l'effondrement de Daesh, c'est-à-dire en 2019, les pays européens, surtout la France, se sont montrés extrêmement réticents à l'égard du rapatriement des concitoyens français ou autres vers leur pays. Et car tout de même, ils sont des complices de Daesh, n'est-ce pas?
Ah, tout à fait. C'est pour ça que quand on parle de prisonniers, ce n'est pas vraiment le cas. Un prisonnier, c'était, quand on en appelle des prisonniers, c'est d'anciens soldats qui se sont rendus. Là, on n'est pas du tout dans ce schéma. Daesh, ce n'est pas une armée, même pas une armée d'opposition, ce sont des organisations terroristes. Donc j'estime que les prisonniers ne devraient pas être rendus dans leur pays d'origine, mais devraient être fusillés pour trahison, pour crime de guerre, pour crime contre l'humanité. De la même façon que les gouvernements français qui se sont succédés depuis qu'il y a eu cette guerre d'ingérence, parce que c'est une véritable guerre d'ingérence contre la Syrie, eh bien ces gouvernements devraient être condamnés par l'ONU. Qu'est-ce que fait l'ONU? L'ONU ne fait rien. D'ailleurs, le général de Gaulle disait « ce machin qui ne sert à rien ». Et il a tout à fait raison. L'ONU ne sert plus à rien, si ce n'est que de cautionner les ingérences occidentales à travers le monde. On n'a jamais vu l'ONU condamner les gouvernements qui ont soutenu les groupes terroristes qui ont attaqué la Syrie. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux poids, deux mesures entre l'Occident et les pays arabes, et notamment la Syrie. Donc, il est absolument incompréhensible qu'un gouvernement puisse se permettre d'envoyer des types type de ministre pour négocier avec une opposition qui n'existe pas. Cette opposition, ce sont des groupes terroristes, et c'est quelque part, je dirais même que c'est une deuxième agression envers la Syrie, le gouvernement syrien et le peuple syrien, que l'on puisse faire une chose pareille. Moi, je trouve qu'on nage en plein surréalisme, et il faudra tôt ou tard que l'Occident paye pour ses crimes. Quant à venir négocier l'échange de prisonniers, ce n'est pas cette sorte-là de négociation qu'il faut. Il faut que la Syrie négocie avec la France les dommages financiers énormes, importants, puisque ça présente des destructions terribles. Eh bien, il faut que la France paye aujourd'hui pour les crimes qu'elle a commis en Syrie depuis 11 ans.
Mais Philippe Hugon, comment payer les crimes qu'ils ont commis à l'encontre des centaines de milliers de civils syriens? Comment, étant donné que d'après vous, il n'y a aucune organisation dans le monde qui pourrait directement condamner et faire payer justement la France?
Ah, mais bien sûr, c'est bien le problème du monde occidental, c'est que le monde occidental est aujourd'hui corrompu par ces financiers, par ces politiques d'incompétence que l'on a eues au pouvoir depuis des années. Alors bien sûr que nous ne pourrons pas dédommager la Syrie pour les victimes humaines, mais que la France puisse au moins payer pour les dommages qu'elle a causés à la Syrie. Et ça, malheureusement, ça n'arrivera pas, parce que l'ONU est un organisme qui n'a aucun poids, c'est un organisme qui ne sert à rien, ce sont des beaux parleurs qui n'agissent jamais. Et malheureusement, la situation n'évoluera pas. Et c'est bien le problème aujourd'hui des relations entre le monde occidental et le reste du monde, car on fait vraiment n'importe quoi. Et il est clair que tôt ou tard, on devra payer et répondre de tous ces crimes contre l'humanité que nous avons commis, quand je dis nous, Français, mais c'est le cas des États-Unis et de l'Europe d'une manière générale.
Aïssa Hamidani, votre point de vue, je vous prie, face à cette... pessimisme du Philippe Hugon face à la France qui payera jamais ses crimes commis, pas seulement en Syrie, mais partout dans le monde.
Moi, je suis beaucoup plus optimiste parce que je pense que le monde actuel est en train de changer. Les rapports de force sont en train de changer dans le monde. Il y a des forces quand même qui existent, comme la Chine, l'Iran et la Russie, qui exigent que la charte de l'ONU soit appliquée et soit appliquée sans discrimination à tous les pays. Ça, c'est un premier point, que de toute façon, quand je vois aussi les victoires qui se font aujourd'hui, qui font place en fait dans notre région, les victoires des Palestiniens dans la dernière dans les 10 derniers jours du mois de mai, les victoires des peuples en fait, et puis même la victoire de la Syrie dans le fait d'avoir réussi à mener les élections malgré l'opposition du monde occidental qui a commencé à être blatéré avant qu'elle n'ait lieu en disant elles ne sont pas légitimes, mais le peuple syrien a réussi à imposer sa parole et s'est approprié ses propres institutions aussi en réalisant, en réaffirmant, je dirais, haut et fort c'est l'élection du président Assad et puis et le fait qu'il voue allégeance au président Assad, qu'il l'a mené dans cette victoire et qui va le mener dans la période aussi de reconstruction du pays. Donc c'est un grand saut de confiance, je dirais, qui a été donné au président Assad. Malgré tout ce que raconte les forces déclinantes de ce monde, qui sont les forces occidentales, je dirais, c'est les États-Unis et l'OTAN. Donc, moi, j'ai beaucoup confiance, en fait, dans les forces montantes aujourd'hui qui vont dans le sens de la justice au niveau de l'ensemble des peuples, mais surtout aussi au niveau de la du respect des droits des peuples, de la non-ingérence et surtout des rapports à nouveau gagnant-gagnant, ce que l'Occident n'a jamais su faire et puis donc dont il est aujourd'hui le plus grand perdant. Et il sera le plus grand perdant dans l'avenir. Donc c'est, moi je verrai, j'y vois beaucoup plus des forces déclinantes qui sont les forces des pays occidentaux, États-Unis autant, et des forces montantes de tous les peuples pour vers des relations nouvelles dans
fait.
Le monde et vers une meilleure équité, je dirais, et une meilleure justice dans le monde.
Aïssa Armidani, experte franco-syrienne depuis Paris. Merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci également à M. Philippe Hugon, reporter de guerre, également depuis Paris, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
J'espère prier à la mosquée d'Al-Aqsa et je suis honoré d'autant d'affection exprimée à mon égard. Je resterai à vos côtés, Inch'Allah, a déclaré le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, dans un discours très attendu après des rumeurs concernant sa santé. Ce qui se passe en Palestine occupée, à Ghouta et à Al-Aqsa, prouve que nous ne sommes confrontés à un ennemi hideux et rancunier qui, empêtré dans la crise, pourrait fuir en avant. Netanyahou, qui est aujourd'hui défait et qui patauge dans la crise, pourrait recourir à des options hâtives pour en sortir. À l'occasion du 30e anniversaire de l'inauguration de la chaîne de télévision Al-Manar, Saïd Hassan Nasrallah a déclaré le mardi 8 juin que cette chaîne avait été fondée par les partisans et les adeptes de l'imam Khomeini. Évoquant le tout récent anniversaire du décès de l'Ayatollah Khomeini, le feu fondateur de la révolution islamique, que sa demeure soit au paradis, Nasrallah a déclaré que l'imam Khomeini avait revivifié l'esprit de la révolution contre la tyrannie et l'esprit de la résistance contre les belligérants. Les Palestiniens, quels que soient à Gaza, à Ghouta, en Cisjordanie et dans les territoires occupés en 1948, sont déterminés à défendre Ghouta et les valeurs sacrées. Il faut que l'humain les soutienne. Nous devons faire de sorte que toute agression contre Ghouta signifie le déclenchement d'une guerre régionale. Al-Aqsa et Al-Ghouta relèvent de la responsabilité de toute la nation arabe et islamique. Le peuple palestinien est décidé à protéger Al-Ghouta et les lieux saints, et c'est qu'il a montré dernièrement comme à chaque échéance. Reste à la nation de prêter main forte à ce peuple. Nous, dans l'axe de la résistance, œuvrons de concert pour instaurer de nouvelles équations sur le terrain en Palestine. Le premier à avoir affiché sa disponibilité à défendre Al-Ghouta fut le Yémen à sa tête, Saïd Abdelmalek Al-Houssi, et Nasrallah. Plus loin, Saïd Hassan Nasrallah a évoqué la défaite saoudienne au Yémen et déclaré « Après le déclenchement de la guerre saoudienne contre le Yémen, Al-Manar a été banni de Nilsat et d'Arabsat pour sa position en faveur du peuple yéménite opprimé. Nous sommes fiers d'avoir été sanctionnés pour cette raison. Nous avons toujours cru à la capacité du peuple yéménite de réaliser la victoire inéluctable dans cette guerre. Au fil des années, nous avons assisté à des exploits épiques de la part des combattants yéménites. Aujourd'hui, le camp saoudien a réalisé qu'il perd sur le terrain et il veut sortir de l'impasse. Mais lorsque le projet de guerre échoue, ils imposent à chaque fois l'embargo et le siège pour affaiblir le peuple yéménite et tout autre peuple qui refuse de fléchir devant les Américains, comme ce fut le cas en Iran ou en Syrie. Tout ce qu'ils veulent maintenant est de trouver une échappatoire et d'arracher des concessions. Nous avons confiance dans les capacités de la nation yéménite pour réaliser une victoire. Sachez que les Américains mentent au monde entier lorsqu'ils prétendent soutenir la fin de la guerre. Ils cherchent à briser le peuple yéménite par la famine et le blocus pour le pousser à accepter les conditions américaines. L'Arabie saoudite et les États-Unis pensent qu'ils pourront concrétiser leurs objectifs via les sanctions économiques et le blocus de la nation yéménite. Le numéro 1 du Hezbollah a qualifié de trompeur le geste médiateur qui s'offre les États-Unis envers la crise du Yémen. Tout cela est pour induire tout le monde en erreur, car les États-Unis veulent mettre un terme à la guerre tout en maintenant le blocus, a-t-il souligné. Le monde arabe doit savoir la vérité, loin de toutes les allégations mensongères selon lesquelles les combattants yéménites ne veulent pas cesser la guerre. Ceci est une accusation sans fondement et mensongère, voire injuste. Passons à la guerre de la fitna en Syrie. Pour ce qui est des groupes salafistes, ceux-ci sont venus semer la discorde et les tueries en portant les tenues et les bannières de l'islam. Il fallait donc dévoiler leurs projets maléfiques pour ne pas leurrer les peuples. Enfin, et après de multiples années de persévérance et de résistance, la guerre a été remportée par les forces légitimes en Syrie, alors que les terroristes ont essuyé une défaite cuisante. Lion africain en chasse de nouvelles proies. Le 7 juin a commencé le lion africain, la plus grande manœuvre militaire dans le continent, planifiée et conduite par l'US Army. Elle comprend des manœuvres terrestres, aériennes et navales au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et dans les mers adjacentes, de l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest, de la Méditerranée à l'Atlantique. Y participent 8000 militaires, pour la moitié états-uniens, avec environ 200 blindés, canons autopropulsés, avions et navires de guerre. Le Lion africain 2021, dont le coût est prévu à 24 millions de dollars, a des implications qui la rendent particulièrement importante. Avec un plan politique décidé fondamentalement à Washington, la manœuvre se déroule cette année pour la première fois dans le Sahara occidental, c'est-à-dire dans le territoire de la République sahraoui, reconnu par plus de 80 États de l'ONU, mais dont l'existence est niée et combattue avec tout moyen par le Maroc. Rabat déclare que de cette façon, Washington reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et invite Algérie et Espagne à abandonner leur hostilité à l'égard de l'intégrité territoriale du Maroc. L'Espagne, accusée par le Maroc de soutenir le Polisario, Front de libération du Sahara occidental, ne participe pas cette année à la manœuvre Lion africain. Washington réaffirme son plein soutien au Maroc en le définissant comme plus grand allié non-OTAN et partenaire des États-Unis. La manœuvre se déroule cette année pour la première fois dans le cadre d'une nouvelle structure USA de commandement. En novembre dernier, l'US Army Europe et l'US Army Africa ont été incorporés dans un unique commandement. Le général Chris Cavoli, qui en est le chef, explique la raison de cette décision. Les problèmes de sécurité régionale d'Europe et d'Afrique sont inextricablement reliés. Et si on les laisse sans contrôle, ils peuvent rapidement se diffuser d'une zone à l'autre. d'où la décision de l'armée américaine d'incorporer le commandement de l'Europe et le commandement de l'Afrique afin de déplacer dynamiquement les forces d'un théâtre à l'autre, d'un continent à l'autre, en améliorant nos temps de réponse aux urgences régionales. Dans ce cadre, le Lion africain 21 est incorporé à la Defender Europe 21, dans laquelle sont engagés 28 000 militaires et plus de 2 000 véhicules lourds. Pratiquement, c'est une seule série de manœuvres militaires coordonnées qui est en train de se dérouler de l'Europe du Nord à l'Afrique de l'Ouest, planifiée et commandée par l'US Army Europe and Africa. Objectif officiel, contrecarrer une non précisée maléfique activité en Afrique du Nord et en Europe méridionale et agression militaire adversaire, avec référence évidente à Russie et Chine. Pourquoi certains pays européens, comme l'Italie, participent à cette manœuvre Lion africain? Emblématique en est la mission au Niger, formellement dans le cadre d'un effort conjoint européen et états-unien pour la stabilisation de l'air et pour s'opposer aux trafics illégaux et aux menaces contre la sécurité. En réalité, pour le contrôle d'une des aires les plus riches en matières premières stratégiques, notamment pétrole, uranium, coltan, exploitées par des multinationales états-uniennes et européennes, dont l'oligopole est mis en danger par la présence économique chinoise et par d'autres facteurs. D'où le recours à la traditionnelle stratégie coloniale, garantir ses propres intérêts par des moyens militaires, y compris le soutien aux élites locales qui fondent leur pouvoir sur les forces armées derrière l'écran de fumée de l'opposition aux milices terroristes. En réalité, les interventions militaires aggravent les conditions de vie des populations en renforçant les mécanismes d'exploitation et d'assujettissement avec pour résultat les migrations forcées et les tragédies humaines qui s'en suivent.